7h18 minutes. Comme chaque jeudi, le monde se long, notre ami Étienne Klein, la physique à l'honneur, et puis peut-être aussi un peu d'épistémologie et de poésie. Aujourd'hui, vous soufflez les bougies de Gaston Bachelard.
Oui, je voudrais qu'on parle de notre Gaston national. Gaston Bachelard qui est mort il y a exactement 50 ans, jour pour jour, à deux jours près en fait.
Le 16.
Il est mort le 16, j'aurais dû faire ma chronique mardi.
Oui.
Il est mort dans un hôtel parisien. Et je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui la mémoire de cet épistémologue, de ce philosophe des sciences très puissant dont la lecture a marqué mes années de formation, notamment un livre, « La philosophie du non », dont le titre aurait aujourd'hui une résonance politique, non au traité européen par exemple, qu'il n'avait pas à l'époque. Bachelard y expliquait que ce que la science découvre peut faire retour sur l'esprit humain et ainsi modifier les contours de la raison. Et c'est la raison pour laquelle, expliquait-il, la philosophie doit s'ouvrir à la science et tenir compte, dans son propre champ, des avancées scientifiques. Il écrit « La doctrine traditionnelle d'une raison absolue et immuable n'est qu'une philosophie, et c'est une philosophie périmée. » Évidemment, dit comme ça fait un peu boum, mais au moins on comprend.
Oui, c'est clair.
Mais si je tiens à évoquer Bachelard, c'est aussi parce qu'il fut une figure exemplaire, au propre comme au figuré. Au sens propre, car Bachelard, c'est une tête, je dirais même une tronche. Il avait une barbe qu'on pourrait dire fluviale.
Il ressemble à un rodin un peu.
Voilà, il apparaît comme une figure paterne, bonhomme et généreuse. Et 50 ans après sa disparition, il conserve d'ailleurs l'image d'un bon vivant. Voilà un philosophe qui connaissait ses classiques, bien sûr, mais aussi l'art de découper le jambon, compétence dont je n'ai pas l'impression qu'elle soit bien transmise aux jeunes générations qui fréquentent nos universités.
Mais il venait de Bar-sur-Aube.
Oui, il est de Bar-sur-Aube, champenois. Bachelard fut également une figure exemplaire au sens figuré du terme, si j'ose dire, car son parcours est symbolique d'un certain type de trajectoire. Boursier d'origine modeste, gloire de l'école laïque de la Troisième République, il a gravi des échelons qui à son époque étaient déjà fort raides et qui aujourd'hui sont devenus carrément verticaux. De surnuméraire des postes et télégraphes qu'il était en 1903, il est parvenu à la chaire d'histoire et de philosophie des sciences de la Sorbonne 37 ans plus tard, en 1940, 13 ans après avoir soutenu sa thèse de philosophie à l'âge de 43 ans. Comme quoi, une bonne thèse peut ne pas souffrir de se mûrir longuement. Mais Bachelard fut surtout un penseur hors norme qui a construit une épistémologie rigoureuse en s'appuyant sur une connaissance solide de la physique et de la chimie. Car son pari, c'est que pour bien parler de la science, il faut partir de la science même et non des idées que l'on se fait a priori sur la science. Mais il fut aussi celui qui a renouvelé l'approche de la poésie en mobilisant la psychanalyse. De sorte que son œuvre a deux versants, un versant épistémologique, il s'intéresse à la raison scientifique, et un versant littéraire, il s'intéresse à l'imagination poétique. Or, a priori, raisonner et imaginer sont deux dynamiques contraires. Mais en réalité, explique Bachelard, la raison scientifique et l'imagination poétique agissent de conserve, puisqu'elles ont en commun de mettre l'esprit en branle, de ne pas se satisfaire des évidences premières, et surtout de se méfier du sens commun. Bien sûr, tout cela peut sembler dépassé, daté, d'autant que les chercheurs d'aujourd'hui collaborent au sein de grands organismes et que leur façon de travailler n'a plus grand-chose à voir avec la façon de travailler d'Einstein, des pères fondateurs de la physique quantique qui portaient la barbichette, se réunissaient en petits comités à l'hôtel Métropole de Bruxelles à l'occasion des congrès Solvay, faisaient leurs calculs à la main et s'écrivaient des cartes postales. Mais en ces temps d'hémiplégie intellectuelle, et là je parle de notre époque et non des années 1920 ou 1930, en ces temps où l'on veut nous faire croire que les scientifiques seraient ontologiquement des scientifiques, avec des gènes d'un genre particulier, et les littéraires consubstantiellement des littéraires, avec d'autres gènes tout aussi spéciaux, il est bon de raviver une pensée qui n'oppose nullement culture scientifique et culture littéraire, et qui choisit même de les combiner pour conjuguer leur dynamique. Et puis dans les livres de Bachelard, il y a des choses qu'on relit avec délice. Par exemple, ces phrases extraites de son livre « La formation de l'esprit scientifique ». La science s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive sur un point particulier de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion. De sorte que l'opinion a, en droit, toujours tort. L'opinion pense mal. Elle ne pense pas. Elle traduit des besoins en connaissance. On ne peut rien fonder sur l'opinion. Il faut d'abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. Fin de citation. Bien sûr, c'est un peu lapidaire. Mais Marc, vous avez remarqué comme moi qu'aujourd'hui, les scientifiques sont parfois médiatiquement débordés par des discours plus simples que ceux qu'ils pourraient tenir eux-mêmes. Et oui, la science est elle aussi victime d'une forme de populisme. Les explications laborieuses, les arguments compliqués ont du mal à se faire entendre, alors que certaines assertions éloquentes, en apparence convaincantes car conformes au bon sens, prolifèrent à l'aise alors qu'elles sont en réalité complètement fausses. Vous vous souvenez comme moi, par exemple, de cette ritournelle qui fut régulièrement proférée pendant la prétendue controverse sur le changement climatique. On entendait comment les climatologues pourraient-ils prétendre prévoir le climat du prochain siècle alors que les prévisions météorologiques ne vont pas au-delà de quelques jours. Si cette perle rhétorique était vraie, on n'aurait pas les moyens d'affirmer qu'en 2013, le mois d'août à Paris sera en moyenne plus chaud que le mois de janvier. Et pourtant, je vous le dis, il fera plus chaud à Paris en été qu'en hiver. Preuve qu'on peut faire des prévisions climatiques justes qui vont bien au-delà de l'horizon temporel des prévisions météorologiques. On voit par là que le faux, lorsqu'il s'appuie sur le soi-disant bon sens, peut prendre le masque du vraisemblable et se montrer plus convaincant que le vrai. Bachelard nous mettait en garde à ce propos, et c'est une autre raison de le lire aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas laisser penser que sa philosophie se réduirait à une sorte d'ascétisme épistémologique. Et c'est pourquoi, avant de me taire, je tiens à rappeler que Bachelard a chanté le vin comme personne. On boit du vin ou du champagne, hein, il était de Barcelone, vous l'avez dit, non pour étancher sa soif, mais pour augmenter son être. Je n'ai pas besoin d'en dire plus pour que vous deviniez que les boissons alcoolisées occupent une place de choix dans l'épicurisme actif que Bachelard appelait de ses voeux, notamment dans son livre sur l'Otréamont. Et je crois que, même si on n'a peut-être pas le droit de le dire à la radio, le mieux pour l'évoquer, Bachelard, c'est de parler de sa philosophie et de sa poétique, un verre de bon vin à la main. À la vôtre donc, et aussi à la semaine prochaine.